L'économie n'est pas comparable à une architecture, ni les malheurs de l'économie à des effondrements. Dans tous les domaines auxquels s'applique la pensée et l'activité humaine, la clé est constituée par une certaine notion de l'équilibre, sans laquelle il n'y a que misérable tâtonnement. Équilibre dont la proportion, chère aux pythagoriciens, constitue le symbole mathématique. Les Grecs, et après eux les Florentins du XIVe siècle, ont inventé la sculpture quand ils ont conçu un certain équilibre propre au marbre et au bronze à forme humaine. Florence a découvert la peinture quand elle a formé la notion de composition. Bach est le plus pur des musiciens parce qu'il semble s'être donné pour tâche d'étudier tous les modes d'équilibre sonore. Archimède a créé la physique quand il a construit mathématiquement les différentes formes de leviers. Hippocrate est parti de la conception pythagoricienne, assimilant la santé à un équilibre dans le jeu des divers organes. Le miracle grec, dû principalement aux pythagoriciens, consiste essentiellement à avoir reconnu la vertu de la conception et du sentiment de l'équilibre. Le miracle grec ne s'est pas encore étendu à la vie économique. La notion de l'équilibre, propre à l'économie, nous ne la possédons pas. Les hommes ne l'ont jamais formée. Mais aussi, n'y a-t-il pas deux siècles qu'on s'est mis à étudier l'économie? On ne dirait sans doute que la stricte vérité en affirmant que ce siècle et demi d'études économiques a été vain. Il n'y a pas eu encore de Thalès, d'Archimède, de Lavoisier de l'économie. L'apparition, il y a un peu plus d'un siècle, de doctrines révolutionnaires est probablement pour beaucoup dans cet échec. Les révolutionnaires, anxieux de démontrer que la société bourgeoise est devenue impossible, n'ont naturellement jamais cherché à définir l'équilibre économique à partir des conditions qui leur étaient données. Et pour l'avenir, ils ont admis comme évident que la révolution en matière économique apporterait automatiquement toutes les solutions en supprimant tous les problèmes. Aucun révolutionnaire n'a jamais tenté sérieusement de définir les conditions de l'équilibre économique dans le régime social qu'il attendait. Quant aux non-révolutionnaires, la polémique en a fait des contre-révolutionnaires soucieux non pas d'étudier la réalité qu'ils avaient sous les yeux, mais d'en chanter les louanges. Nous subissons aujourd'hui, dans tous les camps, les conséquences funestes de cette improbité intellectuelle que, d'ailleurs, plus ou moins, nous partageons. Nous possédons, il est vrai, une sorte d'équivalent à bon marché de cette notion d'équilibre économique. C'est l'idée, si on peut ici employer un tel mot, de l'équilibre financier. Elle est d'une ingénuité désarmante. Elle se définit par le signe égal placé entre les ressources et les dépenses, évaluées les unes et les autres en termes comptables. Appliquée à l'État, aux entreprises industrielles et commerciales, aux simples particuliers, ce critérium semblait naguère suffire à tout. Il constituait en même temps un critérium de vertu. Payer ses dettes, cet idéal de vertu bourgeoise, comme tout autre idéal, a eu ses martyrs, dont César Birotteau restera toujours le meilleur représentant. Déjà au Ve siècle avant notre ère, le vieillard Céphalès, pour faire comprendre à Socrate qu'il avait toujours vécu selon la justice, disait « J'ai dit la vérité et j'ai payé mes dettes ». Socrate doutait que ce fût là une définition satisfaisante de la justice. Mais Socrate était un mauvais esprit. Aujourd'hui, ce critérium a beaucoup perdu de son prestige, aussi bien du point de vue économique que du point de vue moral. Il n'a pourtant pas disparu. On a toujours tendance à appliquer à l'État la formule de Céphalès, ou du moins la moitié de cette formule. Personne ne demande à l'État de dire la vérité, mais on juge abominable qu'il ne paye pas ses dettes. on n'a pas encore compris que l'idéal du bon Céphalès est rendu inapplicable par deux phénomènes liés et presque aussi vieux que la monnaie elle-même. Ce sont le crédit et la rétribution du capital. Proudhon, dans son lumineux petit livre « Qu'est-ce que la propriété ?», prouvait que la propriété était non pas injuste, non pas immorale, mais impossible. Il entendait par propriété non le droit d'user exclusivement d'un bien, mais le droit de le prêter à intérêt, quelque forme que prenne cet intérêt, loyer, fermage, rente, dividende. C'est en effet le droit fondamental dans une société où on calcule d'ordinaire la fortune d'après le revenu. Dès lors que le capital foncier ou mobilier est rétribué, dès lors que cette rétribution figure dans un grand nombre de comptabilités publiques ou privées, la recherche de l'équilibre financier est un principe permanent de déséquilibre. C'est une évidence qui saute aux yeux. Un intérêt à 4% quintuple un capital en un siècle. Mais si le revenu est réinvesti, on a une progression géométrique si rapide, comme toutes les progressions géométriques, qu'avec un intérêt de 3%, un capital est centuplé en deux siècles. Sans doute, il n'y a jamais qu'une part assez petite des biens meubles et immeubles qui soient loués ou placés à intérêt. Sans doute aussi, les revenus ne sont pas tous réinvestis. Ces chiffres indiquent néanmoins qu'il est mathématiquement impossible que, dans une société fondée sur l'argent et le prêt à intérêt, la probité se maintienne pendant deux siècles. Si elle se maintenait, la fructification du capital ferait automatiquement passer toutes les ressources entre les mains de quelques-uns. Un coup d'œil rapide sur l'histoire montre quel rôle perpétuellement subversif y a joué, depuis que la monnaie existe, le phénomène de l'endettement. Les réformes de Solon, de Lycurgue, ont consisté avant tout dans l'abolition des dettes. Par la suite, les petites cités grecques ont été plus d'une fois déchirées par des mouvements en faveur d'une nouvelle abolition. La révolte, à la suite de laquelle les plébéiens de Rome ont obtenu l'institution des tribuns, avait pour cause un endettement qui réduisait à la condition d'esclave un nombre croissant de débiteurs insolvables. Même sans révolte, une abolition partielle des dettes était devenue une nécessité, car, à chaque plébéien devenu esclave, Rome perdait un soldat. Le paiement des dettes est nécessaire à l'ordre social. Le non-paiement des dettes est tout aussi nécessaire à l'ordre social. Entre ces deux nécessités contradictoires, l'humanité oscille depuis des siècles avec une belle inconscience. Par malheur, la seconde lèse bien des intérêts en apparence légitimes et ne se fait guère respecter sans trouble et sans quelque violence.